Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. En ce 10 mai, la France, vous le savez, commémore l'abolition de l'esclavage. C'est la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Alors que représente pour vous cette commémoration? Quelle attitude devons-nous adopter face à cette période de l'histoire? Nous pouvons bien évidemment, si vous le souhaitez, élargir le débat aux conséquences de la traite et de l'esclavage dans le monde actuel et notamment dans les relations Nord-Sud. Vous nous rejoignez évidemment si vous souhaitez vous exprimer. 01 53 92 64 40 33 1 53 92 64 40 si vous nous appelez de l'étranger. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que lorsque vous nous contactez, nous notons rapidement votre prénom, votre numéro de téléphone et évidemment RFI vous recontacte dans les minutes qui suivent. Mais nous commençons d'abord avec vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe, vous nous posez des questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité et nous accueillons pour commencer Armand. Bonjour Armand.
Oui, bonjour Monsieur Gomez et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Casablanca, au Maroc.
Oui, oui, c'est bien ça.
Voilà, nous vous écoutons.
Oui, ma question, c'est par rapport à l'élection présidentielle française qui, dont on a connu le dénouement il y a quelques jours. Mm-hmm. Moi, j'écoute, j'ai suivi cette élection, disons la préparation, la campagne et tout ça, beaucoup plus en écoutant l'éditorial de Patrice Biancone à la mi-journée, oui. Les jours de lundi à vendredi. Et M. Biancone, que j'aime bien, je précise, et il a beaucoup insisté sur le jeu des Chiraciens, tous ceux qui auraient pu participer à une éventuelle primaire contre M. Sarkozy, notamment Alain Juppé, Michel Alliot-Marie et Dominique de Villepin. Mmh. Alors ma question vers Patrice Biancone serait la suivante. Quel peut être l'espace politique de ces Chiraciens-là, ceux qu'on a beaucoup vus en première ligne par rapport à M. Sarkozy, étant donné que M. Sarkozy a gagné? Alors, c'est peut-être leur espace politique au sein de l'UMP.
Alors, Armand, vous faites un peu le porte-parole de plusieurs auditeurs. Je pense notamment à Zachary au Mali, Gilles à Libreville. Ils posent exactement la même question. Malheureusement, malheureusement pour vous, parce que vous êtes apparemment un fan de Patrice Biancone, c'est David Servenet qui est à mes côtés et qui nous rejoint. David, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour, Armand.
Alors, quel avenir, finalement, pour Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense dans le gouvernement sortant, Alain Juppé, ancien Premier ministre, et Dominique de Villepin, bon, l'actuel Premier ministre français.
Non, bah écoutez, Juan, on va pas essayer de jouer les Madame Irma, oui. Mais pour dresser un peu le paysage, on peut dire qu'on peut un peu classer les Chiraciens en deux catégories en ce moment. Hein. Il y a les sarco-compatibles et les sarco-incompatibles. Alors, si on peut résumer, si vous voulez, il y a ceux qui se sont rangés depuis longtemps derrière le candidat de l'UMP, et ceux qui ont préféré faire passer avant leurs convictions et ou leur attachement à Jacques Chirac. Alors commençons par la deuxième catégorie, hein, les sarco-incompatibles, qui sont aujourd'hui quand même les moins nombreux. À tout seigneur, tout honneur, Dominique de Villepin, le Premier ministre n'a évidemment aucune chance d'être intégré dans un gouvernement sous le mandat du futur président Sarkozy. On le sait, hein, les deux hommes se sont affrontés très très durement, comme le rappelait Armand, pendant la campagne électorale. On l'a vu notamment au moment de l'affaire Clearstream, on s'en souvient.
Même pendant le CPE aussi, un peu plus tôt.
Le CPE aussi, absolument, il y a tout juste un an. Alors que va faire Dominique de Villepin, mystère, apparemment il souhaite continuer sa carrière politique à l'international, peut-être à l'ONU, hein, sont des pistes qu'il a avancées, ou à la tête d'une grande agence internationale. Bon, rien ne semble encore très très défini.
Donc il ne sera pas candidat aux législatives dans quelques semaines.
Ah, je ne pense pas, d'autant plus que Dominique de Villepin, on le sait, n'a jamais affronté le suffrage universel. Mmh. Alors, ensuite, il y a le cas d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui, avant ses ennuis judiciaires, hein, sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, était vraiment le premier rival de Nicolas Sarkozy, hein, le meilleur d'entre nous, comme l'appelle Jacques Chirac. Lui, Alain Juppé, il espère pouvoir revenir aujourd'hui à une fonction nationale. Nicolas Sarkozy lui a proposé le ministère des Affaires étrangères. Proposition déclinée.
Il a déjà occupé ce poste.
Bah oui, on se souvient qu'Alain Juppé était déjà au Quai d'Orsay. Mmh. Il y a maintenant plus de 10 ans, ça serait un peu une sorte de retour à la case départ. Donc Alain Juppé a dit non. Alors en revanche, il serait très intéressé par le perchoir, c'est ce qu'il a fait savoir.
C'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale.
Voilà, le perchoir, c'est la présidence de l'Assemblée. C'est un poste qui est prestigieux et assez influent. remuant, qui permet aussi de contrôler la majorité. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Le perchoir, c'est un poste qui est très convoité. Il y a notamment l'actuel président de l'Assemblée nationale, Patrick Ollier, qui lui aussi serait candidat à sa propre succession, en quelque sorte. Et puis, dernière rumeur en date sur Alain Juppé, on parle de lui peut-être pour une sorte de grand ministère qui rassemblerait l'écologie, le développement durable, les transports, l'énergie, peut-être aussi l'Europe. L'Europe, on le sait, c'est un dossier qui est compliqué. Alain Juppé a quand même une grande expérience en matière de relations internationales. Pourquoi pas donc Alain Juppé à la tête d'une sorte de super grand ministère.
Et Michel Alliot-Marie.
Michel Alliot-Marie, encore un autre cas. Alors l'actuelle ministre de la Défense est pressentie, elle, pour les affaires étrangères. Alors elle a pour elle d'être une femme. Je dis ça, c'est important parce que Nicolas Sarkozy veut un gouvernement paritaire, moitié homme, moitié femme.
Donc il doit trouver au minimum 7 femmes.
7 à 8 femmes, ouais, ouais. Peut-être plutôt 8 même, voilà. Bon alors par contre, on l'a un petit peu oublié, mais à l'automne dernier, Armand apparemment s'en souvient bien, elle a été la seule, Michel Alliot-Marie, à s'opposer ouvertement au président de l'UMP. Bon, aujourd'hui, elle semble quand même à peu près sarco-compatible. Et puis, dernier point, il y a ceux qui ont rallié déjà depuis un certain temps le nouvel élu, des gens comme Michel Barnier, François Baroin, qui étaient des Chiraciens à l'origine. Ceux-là peuvent aussi espérer un poste ministériel, car désormais, le futur président de la République est un peu obligé de rassembler toutes les forces de droite. Ça, c'est important.
Voilà, Armand, pour les explications de David Servenay. A-t-il répondu à votre question ?
Oui, largement. Là, je vais aimer bien Koun, mais largement. David Servenay aussi, je l'ai écouté dans les campagnes précédentes déjà aussi.
Bon, merci de votre fidélité en tout cas. Merci de nous écouter à Casablanca, au Maroc. Reste avec nous, David. D'autres questions évidemment concernant l'avenir politique en France. Binia, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez.
Alors, vous nous appelez, vous, de Tripoli, vous êtes en Libye.
Exactement comme d'habitude, donc je suis un fidèle de RFI.
Ah, merci.
Donc, et permettez-moi en tout cas avant tout de vous saluer. Vous encourager pour donc le travail vraiment grandiose que vous faites chaque jour.
Ah, merci de vos encouragements. Alors, quelles sont vos questions, merci. Binia ?
Donc, je passe directement à ma question.
Oui.
Donc, on se rappelle donc lors de la campagne présidentielle, donc Monsieur Sarkozy, alors candidat de l'UMP, avait proposé dans une dose de proportionnelle donc en direction de l'UDF et éventuellement du Front National. En ce qui concerne législative prochaine.
Ouais.
Donc, on sait que Monsieur le nouveau président prendra ses fonctions le 16 mai, donc tout de suite avant la tenue de ses consultations. Donc, ce que je voudrais savoir, vu le temps qui lui est imparti, donc comment il va procéder, comment il va opérer, est-ce qu'il va, il y aura un amendement de la Constitution ou du code électoral?
Alors, Binia, on comprend votre question. Je suis désolé, mais le réseau téléphonique est mauvais avec Tripoli. On a tendu l'oreille, David Servenay. Effectivement, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, vraiment sur la fin de sa campagne électorale, il a dit qu'il y avait une possibilité d'introduire un peu de proportionnel à l'Assemblée nationale.
Alors, pas vraiment, pas tout à fait.
Ah bon,
hein,
J'ai mal entendu.
Ce serait au Sénat. Parce qu'en fait, si vous voulez, bon, pour replacer un peu les choses dans leur contexte. Au départ, Nicolas Sarkozy était farouchement opposé à l'introduction de la proportionnelle dans le mode de scrutin pour élire les députés. Et puis, 15 jours avant le premier tour, l'un de ses plus fidèles lieutenants, Brice Hortefeux, dans le Figaro, s'est exprimé dans ce sens. Et, alors, ensuite, Nicolas Sarkozy s'est très vivement démarqué de cette position, si vous voulez. Et puis, juste avant le premier tour, il a dit « Bon, je suis favorable à l'introduction de la proportionnelle, non pas à l'Assemblée, mais au Sénat. » Et c'était sans doute une manière de se concilier un petit peu les voix du centre et l'extrême droite, effectivement. Cette dernière n'étant pas du tout représenté au Parlement. Alors, le fera-t-il ? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas pour cette année.
Ah, parce que les sénatoriales, c'est dans un peu plus d'un an.
Oui, et puis les législatives dans un mois. Or, il faut le vote d'une loi pour changer le mode de scrutin. Donc, s'il y a de la proportionnelle, éventuellement à l'Assemblée nationale, ça sera pour les législatives de 2012, dans 5 ans. Alors, ensuite, il y a 1000 manières de faire de la proportionnelle, soit sur une partie des sièges de l'Assemblée, ou alors par un scrutin de liste pour chaque parti politique. Si vous voulez, vous panachez en quelque sorte, vous faites d'abord un scrutin de liste, et puis après un scrutin nominal. Alors, par ce biais-là, on peut mettre 10, 20, 50 ou 100% des sièges à la proportionnelle, mais en fait, plus il y a de formations politiques dans une Assemblée, plus il est compliqué de trouver une majorité politique. Or, aujourd'hui, personne ne veut d'un retour, si vous voulez, au règne des partis de la 4e République. Mais il y a aussi un consensus quand même dans la classe politique pour l'introduction d'une dose de proportionnelle pour que plus de partis et que l'opinion soit mieux représentée.
En tout cas, française. C'est une revendication de pratiquement tous les partis,
oui,
et notamment ceux qui ne sont évidemment pas représentés à l'Assemblée nationale.
Évidemment. Alors pour ça, bon, on peut faire confiance à l'imagination des juristes. Et le problème, c'est que politiquement, pour Nicolas Sarkozy, il va falloir aussi le justifier vis-à-vis de son propre camp, parce que qui dit proportionnel dit aussi moins de députés pour les grosses formations politiques. Voilà, et là aussi, ça va être un peu compliqué.
Le débat sera difficile ou pas ?
Ah ben, on peut l'imaginer, ouais. Oui, parce que si vous voulez, dès lors que des députés comprennent qu'ils ont une chance de perdre leur siège, forcément, ça rend leur position peut-être un peu moins claire.
Bon, on vient de perdre un instant Élie, qui est à Cotonou. Je vais donc me faire son porte-parole. Élie, si on le récupère, on le reprendra évidemment à l'antenne. Une question sur Cécilia Sarkozy. Il fallait bien qu'elle arrive, cette question. Pourquoi Cécilia Sarkozy a-t-elle été si absente de la campagne électorale ? Acceptera-t-elle, nous demande Élie, de jouer le rôle de première dame ?
Alors, première question. Pourquoi Cécilia Sarkozy a été absente de la campagne ? Eh bien, je ne sais pas, en fait. Voilà, je vous le dis tout net. Ensuite, acceptera-t-elle de jouer le rôle de première dame ? Eh bien, là aussi, je n'en sais rien. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, dans une interview à un magazine de télévision, Cécilia Sarkozy s'est exprimée sur ce point, et elle a dit la chose suivante, hein, je la cite, « Je ne me vois pas en première dame, ça me rase, je ne suis pas politiquement correcte, je porte des jeans, des Santiago. »
Voilà. Ouais, fin de citation.
Ouais, fin de citation. Alors, est-ce qu'elle a changé d'avis depuis ? J'en sais rien. On va bien voir. Ce qu'on a pu observer lors de la soirée de dimanche soir où Nicolas Sarkozy, nouveau président, s'est présenté face à ses supporters sur la place de la Concorde.
C'était déjà en deuxième partie de soirée. On l'avait pas vu avant.
Oui, absolument. Et Cécilia Sarkozy semblait un peu absente, en quelque sorte. Elle était à côté de son mari, mais elle ne l'écoutait pas trop quand il parlait. Enfin, voilà. Elle avait pas l'air d'incarner la première dame classique. Alors, peut-être serait-elle une première dame originale.
Ouais. Élie, vous êtes avec nous, je crois. On vous a retrouvé, récupéré.
Oui.
Vous avez écouté les explications de David Servenay?
Oui, j'ai écouté.
Oui, vous aviez une autre question, bon, peut-être un peu plus intime, je ne sais pas si on peut y répondre, concernant les véritables relations aujourd'hui entre Cécilia et Nicolas Sarkozy, c'est ça ?
Oui, je voulais savoir si elle va accepter d'être première dame ou bien c'est juste pour que Nicolas Sarkozy fasse bonne figure, qu'elle s'est présentée à côté de lui lors de la deuxième partie de la cérémonie sur la place de la Concorde. Et maintenant, après les élections, après ce cinéma que j'appelle cinéma, est-ce qu'elle reviendra avec son mari, sinon quelle serait l'image de Nicolas Sarkozy sur le plan international, l'image de la France?
David a répondu déjà à la première partie de la question, mais effectivement, si elle ne décide pas de jouer pleinement le rôle de première dame de France, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour l'image du nouveau président?
Écoutez, alors peut-être, il y a un problème en termes de protocole, puisque vous savez quand même dans le protocole des chefs d'État, par exemple quand vous avez une visite de chef d'État, le chef d'État est accompagné de son épouse. Bon, alors si elle veut pas jouer ce rôle-là, ça pourra peut-être poser un petit problème. Maintenant, je pense que sur l'image de Nicolas Sarkozy, à mon avis, ça changera pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'en France, les Français, au fait, sont assez peu sensibles à la vie privée de leurs dirigeants. Je vous donne un exemple, on le sait peu, mais l'ancien Premier ministre Michel Rocard a divorcé deux fois, sans que cela n'émeuve vraiment l'opinion. Voilà. Donc, à mon avis, ça n'aura pas beaucoup de conséquences.
Merci David, j'ai envie de dire à bientôt, puisque les questions, évidemment, sur la situation politique française ne manquent pas. Merci, il est 10h24 à Paris, vous nous rejoignez au 01 53 92 64 40. D'autres questions évidemment, Grégoire est avec nous, bonjour Grégoire.
Bonjour.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Oui.
C'est bien ça, nous vous écoutons, quelles sont vos questions?
Oui, je voulais savoir, c'était vous dire que la filière café cacao a été remise dans la main des producteurs.
Oui. Allô? Grégoire. Ah, décidément, on m'avait prévenu avant de vous avoir à l'antenne qu'il y avait des problèmes téléphoniques. On n'a pas de chance ce matin avec Abidjan. On va essayer de récupérer Grégoire qui s'interroge effectivement sur la filière cacao en Côte d'Ivoire qui est une filière évidemment très très importante puisqu'elle représente 40% des exportations ivoiriennes. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, l'Union européenne a rendu public un rapport sur cette filière. Il y a eu effectivement un audit et Grégoire savoir, je retrouve sa question, voilà, voulait comprendre pourquoi l'Union européenne a fait une telle enquête et quel était le but. Alors Dalila Beritane, bonjour.
Bonjour.
Alors effectivement, un rapport pour essayer d'en savoir plus sur la gestion de cette filière, pourquoi ?
Alors d'abord, c'est un rapport réalisé pour le compte du gouvernement ivoirien. C'est pas l'Union européenne qui a pris l'initiative seule de faire ce rapport. Donc c'est le gouvernement ivoirien qui a demandé à l'Union européenne de mandater des experts pour réaliser un rapport. C'est pas vraiment un rapport d'audit, c'est un diagnostic, on va dire plus exactement, sur la filière café-cacao, quelques années donc après la libéralisation de la filière, puisque la libéralisation est intervenue en 1999. Donc la filière café-cacao de Côte d'Ivoire a été entièrement libéralisée à partir de 99, et donc l'Union européenne a fait ce rapport, ce diagnostic, qui avait déjà commencé avant 2004. Hein. C'est un rapport assez ancien, mais il a été, je dirais, perturbé par les événements de 2004. Une première partie avait d'ailleurs, je dirais, un peu filtré dans la presse un petit peu avant novembre 2004. Les enquêteurs n'ont pas pu terminer leur rapport, leur enquête sur le terrain à la suite de ces événements en novembre 2004. Donc il y a eu une interruption, et puis les enquêteurs ont pu reprendre leur enquête sur place, et donc voilà, ce rapport a été rendu public, mais il est daté, quand vous regardez donc ce rapport, il est daté de mai 2006 et il a été rendu public aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un long cheminement. C'est plusieurs années, je dirais, d'enquête, de rapport sur ce diagnostic des organisations et de la filière café-cacao.
Les conclusions d'Alida sont quand même très critiques.
Ah ben elles sont très dures, elles ont le mérite d'être très claires, moi je dirais, parce que d'abord, c'est vraiment sur le fondement juridique des filières et des différentes structures de la filière café-cacao, et les auditeurs ont été assez clairs. D'abord, il y a chevauchement de ces structures, ensuite, les dirigeants ne savent pas sur quelle base ils agissent, des fonds ont disparu, et les conclusions sont très claires. Il faut supprimer 4 sur 5 des structures de la filière café-cacao, et particulièrement cacao, c'est celle qui pèse le plus lourd en Côte d'Ivoire. Donc il faut supprimer ces structures parce qu'elles n'ont pas de base légale, on ne comprend pas exactement à quoi elles servent, on ne sait pas véritablement quel budget elles gèrent et comment elles le gèrent, et puis on sait aussi que de l'argent a été investi ailleurs que dans la filière café-cacao sans véritable résultats, notamment pour les producteurs. On ne sait pas vraiment où va la filière avec ces structures-là. Donc, il faut supprimer ces structures, et créer de véritables structures qui répondent donc aux besoins de la filière. Parce que les producteurs, même si ça reste le premier produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, les producteurs sont quand même les derniers toujours à souffrir donc de cette libéralisation et de cette filière café-cacao.
Voilà, Grégoire, donc pour les explications d'Alida Beritane. Une autre question d'Alida, mais sur un tout autre sujet, mais puisque vous présentez tous les matins Afrique Éco sur RFI, on va parler de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, avec François qui est à Yaoundé. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour, nous vous écoutons avec Dalila.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI qui suivent depuis Yaoundé. Je profite pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un membre dans le crash de...
Bien sûr. Quelles sont vos questions, François?
La question, c'est une question à deux volets. D'abord, j'aimerais savoir pour quelles raisons officielles, parce qu'elle n'a pas été donnée, pour quelles raisons officielles le gouverneur de la BEAC, le Gabonais Jean-Félix Mamale Porte, a été relevé de ses fonctions. Mm-hmm. Et la deuxième question, dans les coulisses, on nous a parlé d'un un autre Gabonais qui prendrait cette place. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ce n'est que les Gabonais qui occupent ce poste de gouverneur à la BEAC.
Alors Dalila, il y a eu vraiment plusieurs auditeurs qui ont posé exactement la même question. D'abord, pourquoi le gouverneur qui était en place depuis maintenant, je crois, 17 ans, a-t-il été, on va dire, remercié?
Oui, bien sûr. Alors, certains ont dit que ça a été soudain, etc. Donc, au dernier sommet de la CEMAC, le 8e sommet de la CEMAC, je me souviens que ce 8e sommet a été annulé en mars, et que déjà en mars, les rumeurs de limogeage de Jean-Félix Mamalepo étaient parvenues jusqu'à nous, jusqu'à Paris. Donc c'est vrai que ce n'a pas été soudain, c'était négocié depuis plusieurs semaines entre dirigeants de la CEMAC, de l'Afrique centrale. Jean-Félix Mamalepo, qui était en place depuis 17 ans, a été remercié, si je puis dire. C'était un moindre mal pour le Gabon, parce que le Gabon risquait tout simplement d'avoir à subir une présidence tournante, c'est-à-dire d'avoir à perdre la présidence de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, donc le gouverneur de la la banque pour l'instant est toujours gabonais. Il n'est pas dit qu'il ne sera pas gabonais prochainement, et Libreville a sans doute préféré, si vous voulez, sacrifier entre guillemets donc Jean-Félix Mamalepo plutôt que de voir la présidence donc de cette banque lui échapper.
Parce que certains pays réclament et exigent maintenant
la Guinée équatoriale qui apporte les fonds les plus importants de la Banque centrale.
Dalila Beritane, il est 10h30 à Paris. Dans un instant, le journal.